qu'est-ce qu'un clone? Bon, avec une captation du terme depuis la naissance de Dolly. C'est-à-dire que depuis Dolly, le terme que la définition que l'on peut donner, c'est un animal ou peut-être un être humain ultérieurement tenu à partir du noyau d'une cellule somatique d'un organisme adulte transféré dans un ovocyte énucléé. C'est le cas d'affaire à ça, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ce qui est absolument indispensable dans la reproduction animale des mammifères, qui est irremplaçable, c'est l'ovocyte. Et au sein de l'ovocyte, c'est même le placenta, c'est pas le noyau, puisque dans cette technique, on va retirer le noyau de l'ovocyte. Vous savez, c'est un bouleversement, ça, déjà, comme conception biologique. Parce que toute l'évolution dans les dernières décennies, ça a été de valoriser terriblement le noyau. Parce que le noyau, c'est le sanctuaire où siège le génétique. Et tout ce qui entoure dans la cellule, le cytoplasme, était considéré comme tout à fait accessoire. Eh bien, le plus grand fait biologique, après nous ferons ça sur d'autres plans, mais le plus grand fait biologique du clonage n'est pas suffisamment souligné, c'est la mise en évidence du caractère jusqu'à présent irremplaçable du cytoplasme ovocytaire. On peut prendre à la rigueur pour refaire cet animal ou plus cet être humain, n'importe quel noyau de n'importe quel autre tissu. Il y a des préférences à suivre pour les succès. Mais ce que l'on ne peut pas réaliser dans le cadre d'un tel clonage, c'est de ne pas se servir d'un cytoplasme ovocytaire. Vous voyez, tout clonage passe par l'ovocyte et uniquement son cytoplasme. Alors, maintenant, Axel Kahn a bien distingué le clonage à visée thérapeutique. On peut utiliser les cellules de l'embryon, qu'on appelle cellules souches, qui ont un potentiel formidable de développement, pour faire une réparation éventuellement d'organes. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, techniquement, ce qu'il faut, c'est dissocier l'embryon quand il a quelques jours, c'est un amas de quelques dizaines, une centaine de cellules, et ensuite on a ces cellules souches, qu'on appelle ES. C'est une souche embryonnaire, le S étant pour stem, qui signifie la souche en anglais. Alors, s'il faut obtenir deux choses techniquement, il faut d'abord qu'elle se multiplie, parce que si on a besoin de faire des tissus et de faire un organe, on part de quelques cellules, il faut qu'elle se multiplie sans se différencier. Il faut donc à la fois obtenir un blocage de la différenciation des cellules. Alors on sait bien le faire chez la souris, on sait même quel est le produit nécessaire pour le faire. Pour l'humain, c'est déjà un petit peu plus difficile pour associer d'autres cellules. Et puis deuxième temps, alors ça c'est le temps de la différenciation, il faut qu'on sache maîtriser la différenciation des cellules, avec deux possibilités, soit qu'on fasse cette différenciation pour obtenir un tissu donné que l'on utilisera en greffe, ou bien on fait une différenciation in vitro, ou bien on va, et à ce moment-là, on transférera des cellules qui auront été différenciées, ou bien on va transférer des cellules plus précoces, non encore totalement différenciées, dans un organe où elles vont achever leur différenciation. On est dans le cadre, premièrement, toujours, du clonage thérapeutique. Ce sont des cellules dont on veut faire, non pas un être humain, ça sera l'objet de la seconde partie, mais dont on veut faire des pièces de rechange. Alors, sur la souris, chez laquelle on sait maintenant faire du clonage, qui est un animal utile, facile à manipuler, et puis qui a l'avantage d'avoir une durée de vie très relativement limitée. Alors, on arrive à faire des différenciations de cellules neurologiques. Sous une séquence de facteurs de croissance, qui est bien établie à l'heure actuelle, on arrive à obtenir un mélange comportant 80% de neurones parfaitement bien différenciés. Mais on cite là l'exemple de la prouesse la plus établie à l'heure actuelle. Si on veut faire des cellules pancréatiques ou d'autres types de cellules, pour le moment, on n'arrive pas à les faire s'orienter, se différencier complètement in vitro. Alors, la seconde solution, c'est d'utiliser des cellules non entièrement différenciées, des cellules souches, et d'aller les mettre dans un milieu organique où elles vont sans doute se différencier. En somme, là, on fait une greffe de précurseur. Dans la situation précédente, on faisait une greffe de cellules complètement différenciées, et là, on fait une greffe de précurseur. Alors, sur l'animal encore, on a réussi, c'est vrai, et il y a eu des succès dans une pathologie qui mime la maladie de Parkinson et qu'on a pu réaliser sur l'animal, on a pu faire réussir des transplantations de cellules qui ont réussi à fabriquer le neurotransmetteur qui manque dans le Parkinson. Sur la souris, ça a été fait. Et avec un risque énorme, et c'est pour ça qu'on n'est pas prêt d'entrer dans une phase d'application thérapeutique, le risque énorme, c'est que les cellules embryonnaires, elles ont une vocation, c'est d'être, selon l'expression, elles sont pluripotentes. Il y a même un stade tout à fait initial, quand il n'y a que deux cellules, si on prend une des deux, on peut reconstituer un embryon et ensuite un être tout à fait normal. Et à ce moment-là, on part dans cette première phase de cellules totipotentes. Elles ont toutes les possibilités de faire l'embryon, mais aussi de faire toutes les pièces annexes, tout ce qui est nécessaire pour une évolution d'un être complet. Mais les cellules souches dont je vous parle sont des cellules que l'on prend quelques heures après ce stade de totipotence, et elles n'ont déjà plus la possibilité de faire les annexes de l'embryon, mais elles sont destinées à faire tous les tissus de l'organisme. Elles sont pluripotentes, on les appelle. Alors, un des risques quand on les transfère, comme là, le transfert de cellules souches dont je vous parlais tout à l'heure, dans l'espoir qu'elles se différencient in situ, mais ce qui peut se passer, c'est que dans celles qui restent et qui ne se sont pas différenciées et que l'on va injecter, prenons l'exemple complet de la souris avec sa maladie de Parkinson, injectée dans ses pattes de la souris, les cellules qui ne s'étaient pas différenciées, elles gardent même leur possibilité de se différencier, mais en une cellule cancéreuse. Ce que l'on fait faire, et ça c'est une notion grossière que je vais vous donner, mais qui vous montre la difficulté de réalisation, quand on parle de clonage, c'est on fait une opération en quelque sorte magique, il y a des 3-4 décennies, on la croyait totalement impossible, on prend un noyau adulte, qui est dans n'importe quel tissu, où une bonne partie de ces gènes ont été éteints, ne fonctionnent que les gènes qui sont utiles à la fonction de l'organe considéré. On prend ce noyau qui est complètement différencié, qui a perdu depuis longtemps des facultés de donner la variété des protéines nécessaires pour des cellules jeunes. On le met dans l'ovocyte, on a retiré le noyau de l'ovocyte, on le met dans l'ovocyte, et il va être capable, ce que l'on croyait impossible, il va être capable d'effacer complètement, non pas les gènes, mais ce qui commandait le fonctionnement ou non, l'allumage ou non des gènes, et de repartir à zéro, C'est véritablement le cytoplasme a une puissance de jouvence, de régénération absolument totale. Donc, ce que l'opération qui est réalisée dans un clonage, mais c'est une opération en quelque sorte qui est à la base même de l'évolution cancéreuse d'une cellule adulte. Le cancer, c'est dans le fond une cellule dans un organe, dans un organe, qu'il soit, qui tout d'un coup redevient jeune, fait fonctionner des gènes, souvent des gènes fœtaux, qui auraient dû être définitivement éteints et qui, pour des raisons quelconques, redémarrent. Et à ce moment-là, ça échappe à tout contrôle. Eh bien, vous voyez qu'en jouant du retour en arrière, de l'effaçage et du nouveau destin d'un noyau, on lui fait, dans le fond, on est en train de côtoyer très dangereusement le processus de la cancérisation. Et c'est bien ce qui s'est passé donc, quand on a injecté des cellules différenciées pour vouloir donner des cellules dopaminergiques, puisque c'est là qu'il s'agissait dans la maladie de Parkinson chez la souris. Eh bien, d'accord, on a pu sur 25 animaux, dans 16 cas, ça a corrigé complètement, c'est-à-dire que les cellules se sont mises à bien fonctionner. Dans 16 cas, ça a très bien fait. Oui, mais dans 5 cas, ça a donné un tératocarcinome. C'est-à-dire le cancer comportant une variété extraordinaire de cellules. Et ça se comprend, cette variété de cellules absolument extraordinaire. Donc vous voyez l'énorme risque. Il ne suffit pas de savoir orienter et de réussir à orienter quelques cellules. Il faut être sûr que celles que l'on injectera auront elles-mêmes auront véritablement été bien éteintes définitivement. Et on est loin de pouvoir le réaliser encore. C'est vrai qu'on est beaucoup plus avancé. D'abord parce qu'il était travaillé dans d'autres espèces, il était travaillé chez les batraciens, par exemple, depuis très longtemps, puis plus récemment sur le mammifère. Donc il est réussi, depuis 1997, sur la brebis maintenant 10 espèces. Alors, je vous ai rappelé, en gros, c'est donc le transfert d'un noyau somatique dans un ovocyte et nucléaire. Mais le rendement, là c'est une bémol que je dois mettre à ce que disait Axel Kahn au point où il atteint à 5 ans, au point de données que ça va vous mesurer, l'accélération. Il disait, voilà, mais on a déjà beaucoup progressé parce que le pourcentage est bien meilleur maintenant de succès. Non, il faut bien dire que globalement, sur l'ensemble des espèces, le rendement d'ensemble, si on part de 100 ovocytes dans lesquels on a injecté le noyau, eh bien, on obtiendra en adulte 1 à 3% seulement d'animaux. Alors, de temps en temps, sur certaines espèces, on a un peu plus. Mais avec des complications. Des complications, on commence un petit peu à mieux les comprendre qu'il y a 5 ans. Des complications avant la naissance, une mortalité très précoce au stade embryonnaire. Et à la naissance, beaucoup nombre de malformations. Mais surtout, et ça commençait à être évoqué dans l'exposé d'Axel Kahn, c'est qu'il y a des anomalies au cours du développement. Et ces anomalies, c'est un type, surtout, c'est la majorité des espèces, de développement anormaux d'organes. Il n'y a pas de contrôle, c'est une obésité qui est ou généralisée, ou ponctuelle, touchant certains organes. Sur la souris, c'est systématiquement des souris extrêmement obèses. Mais, et ça a été bien prouvé il y a 2 ans, si on prend ces souris, les quelques-unes qui ont été obtenues, étant donné que le rendement là est faible aussi, et qu'on les accouple, et bien, elles vont avoir en seconde génération des individus normaux. Alors, ceci nous pose un problème, et je ne vais pas vous dire comment on peut débrouiller, mais l'idée qu'on s'en fait à l'heure actuelle, c'est que quand on remet un noyau pour son rajeunissement, dans l'ovocyte. Tous les gènes sont en effet réinjectés. Et les gènes qui étaient éteints, pour employer cette expression, ils vont être, on va gommer le système de commande et ça va être remis à zéro, ils vont être capables de reprendre une différenciation au fur et à mesure. Mais il y a un système qui existe chez tout individu, chez tous les mammifères tout au moins, qui est que, en dehors même du capital génétique, de cette succession de gènes sur le génome, il y a des blocages, en certains endroits seulement, il y a des blocages de ce qui a été hérité en tant que gène, qui sont toujours doux, puisqu'il y a un deux chromosomes, l'un venant de la mère, l'autre du père. Eh bien, il y a sur certaines zones du génome des zones où il y a un système bloquant soit le fonctionnement du gène paternel, soit le fonctionnement du gène maternel. Il y a donc une empreinte, c'est le terme que l'on emploie, il y a donc une empreinte génétique qui s'installe dans les conditions normales tout au début du développement. Et qui, lorsqu'elle donne des pathologies, donne en particulier ces grandes pathologies. Et on emploie le terme d'obésité, qu'il n'y ait pas de confusion avec l'obésité tout à fait banale, c'est un autre caractère. Donc, les phénomènes d'empreinte génétique sont ces phénomènes qui sont sûrement bouleversés intensément dans le clonage et qui nous expliquent que bien que tous les gènes soient existants, ce système très 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 délicat de partie d'expression soit paternelle soit maternelle, ça c'est ce qui déraille et c'est ce qui explique les morts à long terme. Axel Kahn voyait comme le temps en fait évoluer les choses, il évoquait cette notion d'accélération des progrès, si on peut dire progrès, enfin des innovations biologiques. Il citait il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, il y a 5 ans cette interview, il disait que ce n'est possible que dans 3 espèces. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible dans 10 espèces. On a gagné en nombre d'espèces. Allons tout de suite au but. Est-ce que ça a été réalisé dans l'espèce humaine? Non. Il y a eu des tentatives, il y a eu la plus avancée, quelque chose qui a abouti dans une équipe chinoise et américaine, parce que ça ne pouvait pas être fait sur le terrain américain, mais un avortement au bout de quelques mois. Et je doute qu'avant longtemps, ça puisse être réalisé. Il y a bien des obstacles. Donc, conclusion sur le clonage, c'est que malgré les progrès accomplis, les travaux expérimentaux, pour les deux types de clonage, sont encore loin d'avoir atteint le niveau minimal exigé pour qu'on puisse penser à passer chez l'homme. Nous allons donc parler du clonage avec une grande liberté. Je crois que l'obstacle, pour le moment, c'est un obstacle de sécurité. Ce serait de la folie et c'est un crime de la part de quelques équipes qui ont laissé penser que j'ai en tête, bien entendu, il a été cité par Axel Kahn le nom d'Antinori, ce gynécologue italien, qui commence à recevoir des couples en laissant penser que ça va être pour bientôt et qui même avait annoncé une naissance. Bien entendu, les naissances annoncées chez les Raéliens, c'était un pur bluff, totalement un bluff total. Mais ça leur a permis de drainer des sommes tout à fait extraordinaires, parce que le marché qui se développe aux États-Unis dès maintenant, fondé sur le clonage, c'est un marché très 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 payant, et c'est ce qui a soutenu d'ailleurs les Raéliens, c'est l'idée déjà dans un premier temps de faire revivre le petit pet adoré, le petit animal tout à fait adoré, et Et alors, c'est comme ça qu'il y a des boîtes qui travaillent uniquement là-dessus, en drainant beaucoup d'argent. Mais ça n'est inenvisageable de le transférer à l'espèce humaine.